Les regrets d'un mourant, quatrième méditation, la prière. Mes chers amis en Christ, parmi les sujets sur lesquels portent les regrets du chrétien qui se croit près de sa fin, il n'en est sans doute aucun où il voulut réformer davantage, s'il revenait à la vie, que la prière. Qu'est la prière dans la pratique et dans la réalité pour la plupart des chrétiens? Je dis des chrétiens croyants et qui prient. Quelques moments consacrés au recueillement le matin, quelques moments le soir, plus ou moins longs, plus ou moins courts, quelquefois très courts, et puis le cœur s'élevant à Dieu dans des circonstances extraordinaires qui font sentir un besoin spécial de s'approcher de lui. C'est à ces maigres proportions que se réduisent les habitudes de beaucoup de chrétiens ou d'hommes qui s'appellent de ce nom. Aussi, combien les fruits de la prière tant promis dans l'Écriture sont-ils peu connus du plus grand nombre? Où sont-ils, ces fruits puissants de sanctification qui font triompher l'âme de toutes les tentations, comme Jésus dans le désert, et qui la rendent plus que victorieuse en celui qui nous a aimés? Où sont-ils, ces fruits de consolation qui répandent dans l'âme une joie douce et profonde, capable de dominer toutes les afflictions de la terre, tellement que jusque dans les angoisses et les amertumes, soit de l'esprit et du cœur, soit de la chair, elle est capable de se réjouir encore de cette joie parfaite que Jésus mourant a souhaité à ses disciples qui allaient mener une vie toujours mourante. Où sont-ils, ces fruits de délivrance, dans lesquels l'âme obtient de Dieu tout ce qu'elle demande, soit qu'elle dise avec Jésus « Je savais que tu m'exauces toujours », soit que, faute de s'élever si haut, elle puisse dire du moins avec David « Tu as accoutumé de m'exaucer ». Soyons sincères et reconnaissons qu'entre les promesses que l'Écriture fait à la prière et les fruits que nous en recueillons, il y a une distance si grande que plus d'une fois notre faible foi en a été troublée, peut-être par moments ébranlée, et que nous nous sommes dit « Est-ce là tout ?» Non, ce n'est pas tout ce qui avait été promis, mais c'est ce que nous n'avons pas fait, tout ce qui avait été commandé. Ah, mes amis, la prière telle que je viens de la peindre d'après nature est bien différente de la prière telle que l'Écriture la présente et à laquelle elle fait toutes les promesses. La prière, selon l'Écriture, que n'est-elle pas? Je disais il y a quelques jours que l'Écriture sainte, la parole de Dieu, est le ciel parlé. Je dirais, en poursuivant cette image, que la prière selon l'Écriture est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant point d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. Mais lorsque les vérités du ciel, dont l'Écriture est toute remplie, reçues et assimilées à la substance de notre âme par la prière, pénètrent jusqu'au fond des entrailles de notre homme intérieur, alors nous connaissons que la prière fait entrer au-dedans de nous le ciel et tous ses biens, le Saint-Esprit et toutes ses grâces, Dieu et toutes ses promesses. La prière est la clé que Dieu a mise entre nos mains pour nous mettre en communication avec le monde invisible. Tout par elle, rien sans elle. Je dis la clé que Dieu a mise entre nos mains, car il en a une autre qu'il a gardée dans les siennes, et dont il daigne se servir quelquefois pour nous ouvrir le monde invisible, alors que nous avons négligé de nous l'ouvrir nous-mêmes, de nous mettre en rapport avec lui, et d'entrer en concours de son action divine, selon ce qui est écrit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ainsi, Dieu terrassant Saul sur le chemin de Damas et le relevant un autre homme, lui a ouvert le ciel, lorsque Saul, loin de le chercher, cherchait les disciples de Christ pour les torturer et les faire périr. Mais ce sont là de ces coups de grâce sur lesquels nous ne devons pas compter et qui nous seraient d'autant moins accordés que nous y compterions davantage. Sans doute, au fond même de ces coups de grâce, la sincérité de l'âme à chercher Dieu se retrouverait encore si l'on y pensait bien. Ce Saul de Tarse, qui s'en allait persécutant le nom de Jésus dans les siens, avait cependant un cœur sincère qui cherchait Dieu, qui lui demandait la vérité, et peut-être depuis le moment que saint Étienne avait prié pour ceux qui le faisaient mourir, l'étincelle d'une vie nouvelle avait commencé de pénétrer dans l'âme de Saul. Qu'en savons-nous? Quoi qu'il en soit, la voie ordinaire de Dieu est d'accorder ses grâces à la prière et d'attendre la prière pour les accorder. L'Éternel, dit Ésaïe, attend pour vous faire grâce. Qu'attend-il? Il attend que vous ayez crié à lui. Et dans Jérémie, quand vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me trouverez quand vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Il en est de même pour nous. C'est par la prière que nous pouvons tout obtenir, et c'est à la véritable prière, telle que nous la dépeint l'Écriture, que sont faites toutes les promesses. Aussi, mes amis, la prière est la marque distinctive des serviteurs puissants du Seigneur. Tous, avec des différences considérables, ils nous offrent ce trait commun. Ce sont des hommes qui prient beaucoup, et des hommes qui prient ardemment. Voyez les prières d'un Jacob. Il lutte avec le Seigneur toute une nuit, jusqu'à ce qu'il ait triomphé du Seigneur lui-même, qui se prête à ce triomphe pour exercer la foi de son serviteur. Voyez les prières d'un Moïse et d'un Samuel, d'un Moïse fondateur d'Israël, d'un Samuel réformateur d'Israël, dont Jérémie dit au commencement de son chapitre 15, pour marquer que Dieu était résolu de ne point accorder une certaine grâce, « Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, je ne le ferai point. » Essayons de substituer notre nom propre à celui de Moïse ou de Samuel. Quand un tel ou une telle d'entre nous aurait prié, cela ne serait point accordé. Quelle chute! Quelle humiliation! Quel contresens! Voyez les prières d'un David, les psaumes, des prières qui ont été capables non seulement de le soutenir lui-même, mais qui sont comme les 150 colonnes qui soutiennent de génération en génération et qui soutiendront jusqu'à la fin du monde toutes les générations du peuple de Dieu. Voyez les prières d'un roi Josaphat qui ne détruit que par la prière les armées combinées des Moabites, des Ammonites et des habitants du mont de Séir, et du roi Ézéchias, son arrière-petit-fils et son imitateur, qui, par la prière seule, appelle l'extermination du Dieu vengeur sur une armée de 185 000 hommes qui n'attendaient qu'une occasion pour détruire Jérusalem de fond en comble. Voyez les prières d'un Néhémie et d'un Esdras pour relever et pour réformer leur peuple, à l'exemple de Moïse et de Samuel, l'un en relevant l'état spirituel et l'observation de la loi, l'autre en rebâtissant les murailles de Jérusalem et rétablissant son état civil. Voyez les prières de Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, tout Jésus qu'il était, tout Fils de Dieu qu'il était, prie, passe des nuits entières en prière et ne fait rien que par la prière. Par la prière, il nomme le corps apostolique. Par la prière, il soutient ses apôtres. Par la prière, il triomphe du démon dans le désert, en Gethsémané et en Golgotha. Par la prière, il accomplit l'œuvre entière de notre rédemption, ayant été rendu capable de souffrir des douleurs inouïes, dont nos souffrances les plus atroces sont à peine capables de nous faire entrevoir quelque pâle image. Et, à la suite de Jésus, voyez recommencer la série des hommes qui prient. Un Paul, quel colosse de prière! La prière est l'âme et le ressort de toute son œuvre. Paul est Paul avant tout par la prière. Voyez les prières d'un saint Augustin, les prières d'un Calvin, d'un Luther, qui, dans le temps où il comparaissait devant la diète de Worms, passait 3 heures prises sur les meilleures de la journée à crier à Dieu à haute voix, ne sachant pas que son fidèle ami Dietrich prêtait une oreille indiscrète et recueillait pour le bien de l'Église ses prières de feu. Note des éditeurs. Voici ce que Dietrich écrivait à Mélenchon, en parlant du séjour de Luther à Cobourg pendant la diète d'Augsbourg. Je ne puis assez admirer sa fermeté, sa joie, sa foi et son espérance dans ces temps de désolation. Il s'affermit chaque jour dans ses sentiments par une application constante à la parole de Dieu. Il ne se passe point de jour qu'il ne réserve pour la prière au moins 3 heures prises sur le temps de la journée qui est le plus favorable au travail. Un jour, j'eus le privilège de l'entendre prier. Grand Dieu, quel esprit, quelle foi dans ses paroles! Il prie avec tout le recueillement d'un homme qui est devant Dieu, mais avec toute la confiance d'un enfant qui parle à son père. « Je sais, disait-il, que tu es notre bon Dieu et notre Père. C'est pourquoi je suis persuadé que tu extermineras ceux qui persécutent tes enfants. Si tu ne le fais pas, le péril est pour toi autant que pour nous. Cette cause est la tienne. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas pu ne pas le faire. C'est à toi, Père miséricordieux, de nous protéger. » Tandis que je l'écoutais de loin, priant en ces mots d'une voix claire, mon cœur brûlait de joie au-dedans de moi, parce que je l'entendais parler à Dieu avec autant de ferveur et tout ensemble de liberté. Surtout, il s'appuyait si fermement sur les promesses des psaumes qu'il paraissait assuré que rien de ce qu'il demandait ne pouvait manquer de s'accomplir. Voyez les prières d'un Pascal, qui, visité dans un âge si jeune encore par des douleurs si constantes et si cruelles, est rendu capable de les surmonter avec une fermeté et une piété dont nous retrouvons la marque empreinte et profonde dans ces prières si belles et si fortes qui nous ont été conservées de lui. Voyez les prières de tous les saints dans tous les temps. C'est leur foi, c'est leur vie, c'est leur ressort, c'est l'œuvre. Ô mes amis, je ne sais si vous serez aussi profondément humiliés que je le suis par ces souvenirs. Quant à moi, je ne puis exprimer jusqu'à quel point je suis humilié en me rappelant ce qu'ont été mes prières auprès de ce qu'elles auraient dû, de ce qu'elles auraient pu être. Certainement, nous serions dans notre humble sphère d'action ce que ces hommes ont été dans l'histoire de l'Écriture et de l'Église, si nous savions prier comme ils ont su prier, et si au lieu de dire « c'était un privilège spécial que Dieu leur accordait », nous savions dire « Seigneur, enseigne-moi à prier ». Ah, si je revenais à la vie, je voudrais, avec le secours de Dieu et en me défiant de moi-même, donner à la prière beaucoup plus de temps que je n'ai fait et me reposer sur elle beaucoup plus que sur le travail, qu'il est cependant de notre devoir de ne jamais négliger, mais qui n'a de force qu'appuyée et animée par la prière. Je voudrais surtout répandre dans mes prières cette onction et cette ferveur du Saint-Esprit qui ne s'apprend pas en un jour, mais qui est le fruit d'un long et souvent d'un douloureux apprentissage. Ô mes amis, vous qui êtes pleins de vie, vous dont la carrière ne semble pas encore toucher à son terme, quoique nous n'en sachions rien et que je puisse vivre plus longtemps que vous, saisissez l'occasion et la rachetez. Entrez dans de nouvelles habitudes de prière. Portez dans la prière avec cet esprit de ferveur, un esprit d'ordre et de méthode qui en augmentera la puissance, comme elle augmente la puissance de toutes les choses humaines et seconde la puissance divine elle-même. Cet ordre et cette méthode dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple dans la prière modèle, l'oraison dominicale. Enfin, priez Dieu de vous conduire et sortez d'ici plein de cette prière « Seigneur, enseigne-moi à prier. Je m'y appliquerai avec vous. Quelque court que le temps puisse être, Dieu ne regarde pas à la brièveté du temps, mais à la droiture du cœur. Tous ensemble, d'un même esprit et d'un même cœur, humiliés de la lâcheté de nos prières, formons la sainte résolution de connaître enfin, par expérience, quelles en sont les vraies promesses, afin que nous en recueillions le bienheureux héritage dans ce monde invisible avec lequel la prière seule nous met en rapport par la parole de Dieu. Dans ce monde invisible, plus près des uns, plus loin des autres qu'ils ne le pensent ou ne le souhaitent, et qui, quoi qu'il en soit, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ce serait énorme, c'est-à-dire dans un clin d'œil, va s'ouvrir pour tous ceux de nous qui ont mis toute leur espérance en Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. C'est mon ardente prière pour vous, et si le Seigneur me rappelle à lui, c'est l'héritage que je voudrais laisser à chacun de vous, en commençant par ma famille bien-aimée. Amen.